Les textes de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle et qui est de la plus haute importance. Pour Dieu, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'exclus. Ce message, nous l'avons entendu à l'instant, dans la première lecture, le deuxième livre des Rois, qui nous rapporte effectivement l'histoire de Naaman, un notable étranger, un général, ennemi d'Israël, et qui, une fois guéri de sa lèpre, par l'intermédiaire du prophète Élisée, exprime toute sa reconnaissance à Dieu. Et il le fait avec cette belle profession de foi. Maintenant, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Ce récit de l'Ancien Testament nous annonce que le salut de Dieu est offert à tous les hommes, même à ceux qui sont loin de lui. Et c'est ce même message que nous retrouvons dans l'évangile de Saint Luc. Alors cette fois-ci, ce n'est plus un général étranger qui est guéri, mais ce sont dix lépreux. Alors, vous le savez bien, ces lépreux sont des exclus de la société, du fait même de leur maladie qui les contraint à vivre en marge. Leur chance, c'est de percevoir Jésus, juste au moment où il entre dans un village. Alors aussitôt, ils vont à sa rencontre. Mais bien sûr, ils restent à distance, comme il se doit, en raison du risque de contagion et de leur propre impureté légale. Et c'est d'une seule voix que les dix appellent Jésus au secours, demandant sa pitié, demandant et espérant la guérison. Et c'est encore d'un seul mouvement que les dix obéissent à Jésus, lorsque Jésus leur dit d'aller se rendre auprès des prêtres pour faire constater leur guérison. Eh bien, c'est précisément au moment de leur guérison que se brise la cohésion du groupe. En effet, un seul revient à Jésus pour le remercier. Un seul. Et Saint Luc nous précise que cet homme était un Samaritain, encore un autre exclu, un exclu au moins de la communauté juive. Et c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle ce Samaritain ne pouvait pas aller, lui, rencontrer les prêtres avec les neuf autres. Après tout, ce Samaritain, il nous représente tous parce qu'il n'a pas de nom. Il représente tout ce que notre monde peut contenir d'étrangers et d'étrangetés. Oui, c'est bien lui seul qui revient en glorifiant Dieu. Qu'est-ce qu'il a compris ? Il a compris que c'est en retournant à Jésus et non pas au temple, c'est en retournant à Jésus qu'il peut vraiment rendre gloire à Dieu. Si vous voulez, d'une certaine façon, il passe littéralement de l'obéissance à la loi à l'obéissance de la foi. Il y a un véritable passage, une véritable Pâque. Et c'est alors à ce moment précis qu'il reçoit de la part de Jésus cette bonne parole de bénédiction dans laquelle transfigure déjà la puissance de la résurrection. « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi, relève-toi. » C'est le même verbe que celui utilisé dans le récit de la résurrection. Et c'est pour nous une bonne indication pour comprendre que Jésus fait passer cet homme de la guérison, si j'ose dire, clinique, à la guérison de tout son être de pécheur. Jésus appelle ce Samaritain à une vie totalement autre, qui ne soit plus sous l'emprise de son ancienne identité dictée par la loi, mais par la seule liberté des enfants de Dieu et sous la mouvance de la seule foi. Ça fait déjà beaucoup de choses pour nous. Mais ce récit nous rappelle aussi, à l'évidence, que le Christ n'est pas venu que pour les gens de son peuple. Le salut donné aux lépreux annonce le salut qui sera proposé à l'humanité tout entière et à nous aujourd'hui. Alors bien sûr, en entendant cet évangile, nous sommes nécessairement renvoyés à nous-mêmes. Après tout, ne sommes-nous pas venus, nous aussi, dans cette Église, rencontrer Jésus avec notre lèpre? Ne sommes-nous pas venus dans cette Église pour implorer sa guérison? Nous l'avons fait au début de la messe. Et pour le louer, nous le faisons maintenant. Ne sommes-nous pas appelés chacun comme nous sommes pour rendre grâce pour cette bonne nouvelle de l'Évangile qui est pour tous, les pauvres, les prisonniers, celles et ceux qui sont tombés bien bas, les personnes marginales ou celles que l'on dit anormales, celles qui dérangent notre vie, les migrants? Toutes ces personnes qui sont souvent méprisées par le monde ont la première place dans le cœur de Dieu. Et puisque Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, alors voilà préciser notre propre vocation de chrétien, notre propre vocation commune de disciple du Christ. Quelle est-elle, cette vocation, à la suite de Jésus? Eh bien, elle consiste à nous laisser envoyer en son nom pour dire à tous ces pauvres et ces exclus, eh bien, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont guéris. Et si nous pouvons leur dire, c'est parce que nous-mêmes, nous avons d'abord fait l'expérience d'être guéris de notre propre lèpre et de nos péchés. C'est quand même fabuleux de se rendre compte que Jésus n'a pas peur de nous approcher, de nous toucher, et qu'il va jusqu'à prendre notre propre lèpre sur lui. C'est ça qui va nous envoyer vers les autres. Et puis, vous savez, comment ne pas évoquer François d'Assise, qui a compris tout le mystère de l'incarnation du Christ, le jour où il décida spontanément, dans un élan étonnant, d'aller embrasser un lépreux. C'est à ce moment précis que François découvre dans le lépreux la personne même du Christ. Ce Christ lépreux qui mendie notre amour. François, alors, a commencé son chemin de disciple jusqu'à devenir, et vous le savez bien, très semblable à Jésus, jusqu'à lui ressembler physiquement avec les stigmates. Oui, de tout notre cœur, ensemble, dans cette Église si bien pleine du peuple de Dieu, eh bien, rendons grâce pour cet amour sans frontières qui nous restitue tous de notre dignité de filles et de fils de Dieu par la guérison de notre lèpre. Et enfin, nous sommes là pour ça aussi, encourageons-nous les uns les autres à participer par toute notre vie à la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Vous savez, le Seigneur est réellement présent dans cette Église, comme il l'est dans les migrants qui sont à l'extérieur et à qui il nous invite à ouvrir notre porte.